182 000 faux passes sanitaires mis à jour en France, selon les chiffres communiqués hier par le ministère de l'Intérieur. Les fraudeurs semblent partout. Une centaine d'entre eux ont été interpellés, des usagers, oui, mais aussi des membres de réseaux de trafiquants. Alors, quelles conséquences ces faux passes sanitaires ont-ils sur le système de santé? Pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur Frédéric Canet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny et du SAMU de Seine-Saint-Denis. Alors concrètement, monsieur Adnet, quand on est médecin à l'hôpital et que l'on voit arriver un patient qui présente des symptômes du Covid-19, pourquoi c'est important de savoir s'il a ou non été vacciné?
Alors c'est important, c'est même fondamental dans les premiers signes de la maladie. Hein. C'est parce que les traitements précoces que l'on peut proposer aux patients qui présentent les premiers signes de la maladie sont différents selon leur statut vaccinal. Un patient qui n'est pas vacciné est pour nous clairement un patient à risque, et s'il est associé à d'autres comorbidités, on peut lui proposer par exemple des injections d'anticorps monoclonaux qui ont démontré une efficacité sur la probabilité d'être hospitalisé ou même la probabilité de décès. Donc, c'est donc pour diminuer la fréquence des formes graves.
Donc, quand on cache cette information, quand on ment même sur le fait d'avoir été vacciné ou non, c'est qu'on prend un risque pour sa survie.
On prend un risque de ne pas bénéficier de ce traitement précoce. Après, quand on est à la phase réanimatoire, il n'y a plus de différence, si vous voulez. Tous les patients vaccinés ou non vaccinés, malheureusement, quand ils sont dans la phase de Covid grave, sévère, en réanimation, il n'y a pas de différence fondamentale entre la prise en charge des patients vaccinés ou non vaccinés. Donc là, si vous voulez, l'impact est moins important.
Alors on se rappelle du cas de cette patiente qui est morte le 10 décembre dans les Hauts-de-Seine. Elle avait acheté un faux pass sanitaire. Alors cette fois-là, c'était son mari qui, disons, avait avoué après le décès de son épouse. Mais vous pensez que ça pourrait ne pas être un cas à part? Vous avez eu des cas comme ça de patients qui sont arrivés dans votre hôpital?
Oui, oui, clairement. Quand les patients nous disent qu'ils sont vaccinés, que lorsqu'on leur fait une sérologie, celle-ci s'avère négative, on refait un interrogatoire des patients un peu plus poussé ou des vérifications, évidemment pour son bien, pour voir qui bénéficie des traitements donc spécifiques. Et on s'aperçoit malheureusement souvent que en fait ces patients soi-disant vaccinés et qui développent la maladie asymptomatique sont malheureusement souvent des patients qui ont soit des faux pas, soit qui ont menti, en tout cas qui ont tout fait pour pas pour cacher leur statut vaccinal.
Vous parliez de sérologie, ça veut dire qu'il y a un moyen aujourd'hui fiable de vérifier si quelqu'un a effectivement été vacciné?
Oui, il y a un moyen qui n'est pas fiable à 100%. C'est tout simplement de mesurer les anticorps dirigés contre la protéine S, puisque les vaccins ciblent la protéine S. Et donc, ils se différencient, si vous voulez, de patients qui ont déjà contracté la maladie, qui ont plusieurs types d'anticorps.
D'accord, et ça veut dire qu'il faudrait presque généraliser ces vérifications, ou vous pensez qu'on devrait en arriver là?
On le fait en pratique courante, on le fait maintenant.
D'accord. Et cette épidémie, dans l'épidémie, celle des faux passes sanitaires, c'est aussi une menace pour le système de santé? On risque de voir des chambres d'hôpitaux qui sont toujours aussi occupées?
C'est surtout une menace pour les patients hein, qui sont doublement victimes. Premièrement, ils sont victimes parce qu'ils s'exposent à avoir cette maladie, alors que s'ils avaient été vaccinés, ils n'auraient pas les formes graves de la maladie, donc ils sont déjà victimes de cette maladie. Et ils sont deuxièmement victimes de mensonges et de désinformation en leur donnant, si vous voulez, des fausses croyances qui ne permettent pas de protéger les autres, de protéger leurs proches, et ça c'est réellement criminel.
Il y a quelques jours, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé réfléchir à un système de repenti, c'est-à-dire être indulgent envers ceux qui ont effectivement un faux pass, mais qui souhaitent maintenant, enfin, disons, de se faire vacciner. C'est une bonne idée pour vous? Ça va dans le bon sens, ce genre de...
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois que ces patients sont considérés comme des victimes et non pas comme des criminels ou des gens hors la loi. Par contre, ceux qui organisent ces trafics, Et dans une moindre mesure, mais moi je suis très en colère contre les leaders de la désinformation qui sont parfaitement identifiés, il faudrait quand même réfléchir à pouvoir les sanctionner. Les médecins qui se prêtent à ces trafics, eux, c'est clair, il y a le code de déontologie qui permet de les sanctionner, voire de les empêcher d'exercer, hein, Après, au niveau pénal, c'est plus difficile, si vous voulez, de sanctionner les leaders de la désinformation qui annoncent que le vaccin est dangereux, inefficace. Mais je crois que quand on met en danger la vie d'une population, je pense qu'on doit avoir les armes législatif pour pouvoir sanctionner ces personnes.
Alors aujourd'hui, on est quand même engagé en France dans la campagne de rappel. C'est elle qui bat son plein en ce moment. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a encore la première campagne qui continue, celle de vacciner une première dose pour une première dose de nombreux patients encore. Ça, ça vous inquiète de voir qu'on n'a pas encore fini cette étape-là ?
Ben, on en a toujours été conscient. Hein. Il y a environ 5 à 6 millions de Français éligibles qui n'ont pas été vaccinés. Je vois dans mon centre de vaccination qu'il y a eu un rebond de patients qui viennent pour une première dose. Donc ça nous satisfait parce que même avec une dose très précoce, on diminue la probabilité de faire des formes graves. Évidemment, il faut un schéma de vaccination complet. Mais face à l'arrivée du variant Omicron, le challenge principal, c'est effectivement de faire les troisièmes doses, de faire des schémas vaccinaux complets, d'abord chez les personnes à risque, et finalement pour tous les patients adultes, et le plus rapidement possible, parce que cet Omicron, je vois que déjà dans la santé publique hôpitaux de Paris, elle est déjà à 30% des cas, donc ça va aller très très vite, avec un taux de doublement tous les deux jours. On pense que dans une semaine, 15 jours, ce Omicron sera majoritaire en France.
Et par rapport aux vaccins, vous êtes confiant sur l'efficacité de ces vaccins contre ce variant ?
Non, je suis convaincu de l'efficacité d'un schéma vaccinal complet, avec la troisième dose qui fait un effet, ce qu'on appelle un effet booster, c'est-à-dire qui tout d'un coup va augmenter de manière très importante le taux d'anticorps. Et toutes les études ont montré, y compris des études en laboratoire, mais aussi des études qui viennent d'Angleterre, d'Afrique du Sud et du Danemark, qui ont montré qu'il y a une efficacité clinique, c'est-à-dire en étudiant les populations, sur les formes graves de la Covid. Donc là-dessus, on est, si vous voulez, complètement rassuré sur l'efficacité vaccinale. Et pour nous, c'est un challenge très important, parce que moi qui suis à l'hôpital, je vois arriver que les formes graves.
Donc ce n'est vraiment pas un argument à retenir pour les antivax. C'est un argument faux, selon vous.
De quoi ?
Ces vaccins et cette efficacité sur tous les...
Ah oui, bien sûr, non, mais le vaccin est efficace. Il est très efficace contre le Delta, il était efficace sur les premiers variants, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, pour l'Omicron, il y a une nécessité d'avoir une troisième dose. Voilà. Et peut-être que dans le futur, de trouver un vaccin, une version V2 du vaccin ARN, c'est-à-dire modifier l'ARN pour qu'il s'attaque de manière plus spécifique à la protéine S mutée du variant Omicron.
Merci, professeur Frédéric Annet, d'avoir répondu à l'invitation d'RFI. Je rappelle que vous êtes chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny et du SAMU de Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi auteur de Les fantassins de la République, urgence Covid, un printemps en enfer. C'est aux éditions Flammarion. Très belle journée à vous.